7 milliards de voisins.
On est ensemble. Avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins à l'heure d'été, suite de notre série Vivre en ville. Hier, souvenez-vous, nous étions dans la ville vitrine à Istanbul, en Turquie. Et aujourd'hui, vivre dans une ville sans espace public, Nairobi, au Kenya, raconté par Laure Broulard, correspondante pour RFI. Bonjour Laure.
Bonjour.
Vous avez passé près de 3 ans
à
Nairobi.
2 ans et demi.
Pourquoi une ville sans espace public ?
Bien parce que d'après moi, Nairobi, c'est une ville où les différentes classes sociales ne se rencontrent pas vraiment. Et j'ai souvent eu l'impression qu'en fait, il y avait plusieurs villes superposées qui ne communiquaient pas. C'est une ville où on se sent souvent assez confiné, où on est souvent derrière des murs, où il n'est pas très agréable de marcher dans la rue parce que c'est très pollué, parce qu'on a des fumées, des bus qui vous viennent un peu dans la figure. Du coup, voilà, c'est une ville où il y a peu de rencontres dans l'espace public.
C'est une ville que vous avez au premier abord trouvé laide, que vous avez appris à aimer.
Beaucoup, je l'ai beaucoup aimé après.
Laure Broulard, vous signez aussi le programme musical de l'émission. On est donc dans une ville de près de... C'est pas une grosse ville, hein, côté de Lagos, rien à voir.
Ouais, c'est 3 à 4 millions d'habitants.
En tout cas, ça tombe bien parce que vous êtes une fan de musique ouverte à toutes les influences. Et on démarre avec Sauti Sol et Nyashinski, star de la pop kenyane. Le clip est tourné dans un décor urbain très moche, en effet, à l'image de la ville, mais le look des danseurs est franchement, très inspirant.
I think you fell in love too fast. African nights in a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much. That I'm not your type when you don't like the hype. Cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini hisie ni kwambie I love you. I don't want this night to end before you know I need you. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feels so sweet. Apolipo kamatana feels so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feels so sweet. Apolipo kamatana feels so sweet.
Yeah. You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kudetum to come in mini high risk. Throw that shit behind me, yeah. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments, yeah. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye. It shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakwafia ukiparticipate. Vile nimejitolea ungejua unge appreciate. Lighting intimate. 1+68. Usirasha tukitoka sai you'll still be late. Tusiate chance ya kufeel regret. How much higher than this can you ever get? In Mount Everest. And by sunrise I'm gone. I'm not here that long. Keep it short and
sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feels so sweet.
Bienvenue dans la ville sans espace public. On est à Nairobi, au Kenya, avec vous, Laure Broulard, ancienne correspondante pour RFI, et vous signez le programme musical. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, c'est Short and Sweet de Sauti Sol, qui est un des groupes les plus légendaires et les plus populaires au Kenya aujourd'hui, donc c'est vraiment une légende de la pop kenyane. C'est un des rares groupes qui est connu à l'international maintenant, avec Blinky Bill un petit peu et Suraj, qu'on entendra peut-être après. Et Nyashinski, c'est une légende du hip-hop kenyan. Donc là, vraiment, les deux se sont mis ensemble et ont fait signer une chanson ultra dansante sur laquelle j'ai beaucoup dansé et beaucoup de Kenyans ont beaucoup dansé dans tous les bars de Nairobi. Et je voudrais rebondir sur le clip dont vous avez parlé et qui en fait a été tourné dans l'ancienne gare du train, en fait du chemin de fer qui allait de Nairobi à Mombasa, qui aujourd'hui a été refait par les Chinois. Donc il y a un deuxième train en parallèle. C'était un train qu'on appelait le Lunatic Express parce qu'on ne savait jamais quand est-ce qu'il allait arriver ni combien de temps il allait prendre pour traverser tout le parc du Tsavo et aller jusqu'à Mombasa. Et du coup, voilà, il y a encore cet ancien train qui existe et qui est très beau. Et donc, c'est dans ce train-là et sur le quai que le clip avec avec les danseurs a été tournée.
Alors cette ville sans espace public, ça veut dire que si on a envie de marcher, de se promener, de rencontrer, on n'a pas de raison de marcher par exemple à Nairobi?
Alors dans la journée, on peut tout à fait marcher. Dans le centre-ville, ça peut être assez agréable. Mais sinon, en fait, c'est un peu une ville sur le modèle de ville américaine comme Los Angeles, donc avec des suburbs, des banlieues. Et finalement, donc les distances sont très longues. On voit un peu que des maisons qui sont un peu toutes les mêmes le long des rues. Peu de trottoirs, beaucoup de trous dans les trottoirs, beaucoup de pollution, je le disais, beaucoup de poussière. Du coup, c'est assez rare les endroits où on marche et où on prend plaisir à marcher.
Comment sont organisés les quartiers ?
Alors quand on parlait justement des deux villes superposées, donc il y a plein de quartiers très riches. Donc des quartiers qui vont être ultra sécurisés avec des grandes maisons qui ont des immenses jardins où on peut se déplacer qu'en voiture parce que c'est beaucoup trop grand. Et de l'autre côté, on a plus de la moitié de la population de Nairobi qui vit dans des bidonvilles ou dans ce qu'on appelle des habitations informelles. Et ça, c'est hérité de la manière dont la ville a été créée au 19e siècle, où il y avait déjà dès sa création, elle a été créée par les colons anglais, en fait, le long justement de ce chemin de fer. Il y avait déjà des quartiers qui étaient réservés à la main-d'œuvre kényane et des quartiers où il y avait les blancs. Et d'ailleurs, un quartier qui n'en était pas un à l'époque, parce que c'était complètement la campagne, mais là où habitait Karen Blixen, qui est la fameuse auteure de La ferme africaine, qui est devenue un film à grand succès, Out of Africa. Il y a un quartier qui s'appelle toujours Karen et qui est le quartier le plus riche de Nairobi. Il y en a d'autres, tels que Guigiri, où on a l'UNEP. Donc, il faut savoir que Nairobi, c'est aussi un hub institutionnel. Donc, il y a l'UNEP, l'ONU Environnement, un hub pour les médias, un hub pour les ONG. Du coup, voilà, toutes ces institutions sont installées dans certains quartiers qui sont du coup très riches et très différents de ce que le reste de la population peut vivre dans des quartiers plus populaires ou dans des bidonvilles.
Alors, vous nous parliez de ces quartiers très riches où il y a aussi les expatriés qui travaillent dans ces organisations internationales, mais il y a bien une classe moyenne. Où habite-t-elle, cette classe moyenne ?
Alors, la classe moyenne kényane, d'ailleurs, j'habitais dans un quartier de la classe moyenne kényane, habite aussi dans des gated communities, donc dans ce qu'on appelle, enfin, c'est des résidences, en fait, surveillées avec des gardes à l'entrée. Qui sont souvent pas loin des bidonvilles. Donc moi, par exemple, j'habitais à Lavington, c'était juste à côté du bidonville de Kaangware, pas si loin du bidonville de Kibera. Donc en fait, il peut y avoir des grosses différenciations de niveau de vie entre 200 ou 300 mètres.
Donc entre le bidonville et la résidence sécurisée avec des gardiens, où la résidence est fermée, où aucun étranger n'accède à la résidence s'il n'a pas sa maison à l'intérieur, etc. Entre ces deux modes d'habitat, il n'y a rien.
Il y a quelques petits immeubles, oui, mais pas grand-chose. Ouais.
Beaucoup de blancs à Nairobi.
Beaucoup, comme je le disais, beaucoup de personnes qui travaillent à l'ONU, dans les médias, dans les ONG qui préfèrent s'installer à Nairobi parce que pour des raisons de sécurité, quand elles travaillent sur la Somalie ou le Soudan du Sud. Donc oui, beaucoup de blancs et on en voit beaucoup dans la rue tout le temps.
La vie dans les... Alors évidemment, quand on parle de bidonville à Nairobi, tout le monde pense à Kibera, le plus grand bidonville d'Afrique, c'est vrai ?
C'est ce qu'on a longtemps dit et en fait, on n'en est pas si sûr. C'est toujours difficile en fait d'estimer les populations dans les bidonvilles parce que c'est très difficile de les compter. Donc Kibera, on a longtemps dit qu'il y avait entre 700 000 et 1 million d'habitants, ce qui en faisait le plus grand bidonville d'Afrique. Maintenant, les estimations le placent entre 250 000 et 500 000 habitants, donc c'est quand même beaucoup plus petit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on parle tout le temps de Kibera dans la presse internationale, mais il y a beaucoup d'autres bidonvilles à Nairobi, comme par exemple Matare, qui est estimé entre 350 000 et 400 000 habitants, donc c'est pratiquement pareil. Mmh. Mais il y a aussi Dandora, c'est des bidonvilles qui ont peut-être moins bénéficié en fait, d'aide internationale et d'ONG qui se sont implantées là. Et du coup, il y a encore plus de problèmes de drogue, de problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité qu'à Kibera aujourd'hui.
Et quand on additionne toutes ces populations dans ces bidonvilles, effectivement, on arrive à près de 60% de la population de Nairobi qui habite dans ce qu'on appelle l'habitat informel. Habitat informel dans ces bidonvilles, c'est quoi ? C'est de la tôle ondulée où il y a beaucoup plus de diversité qu'on ne pense, de confort ou d'inconfort dans ces bidonvilles et de richesse d'ailleurs.
Il y a beaucoup de diversité. Donc, par contre, quand on passe à côté de Kibera, c'est vraiment une marée de tôle rouillée. Donc ça, c'est sûr, on le voit de très très loin. En plus, c'est en plein centre-ville, donc c'est assez choquant. Mais effectivement, depuis plusieurs années, il y a déjà des programmes du gouvernement qui ont essayé de faire des habitations en dur. Donc il y a de plus en plus d'immeubles à Kibera. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, des propriétaires en fait qui se sont aussi enrichis à Kibera. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart, quand on dit habitation informelle, c'est que souvent...
On n'a pas de titre de propriété.
Voilà, hein. Ces populations, elles arrivent et elles vont en fait s'installer sur des terrains publics qui appartiennent à l'État et commencer à construire des petites maisons. Sauf que certaines personnes ont construit 3, 4, 5, 6 petites maisons et vont en fait devenir des propriétaires de ces maisons, mais pas de la terre, et louer ces maisons parfois à des prix d'ailleurs assez exorbitants aux nouveaux arrivants dans le bidonville. Et donc comme ça, il y a des gens qui à Kibera effectivement se sont fait beaucoup d'argent. Certains vivent dans le bidonville, du coup dans des maisons de mieux en mieux, d'autres vivent en dehors du bidonville et se font de l'argent sur la location de leur maison.
Petit
de
seigneur des bidonvilles finalement.
Exactement.
Avec les revenus des loyers. Politiquement, est-ce que les bidonvilles de Nairobi sont toujours acquis à l'opposition ?
Oui, alors surtout Kibera et Matare. Kibera est aussi très connu parce que durant les violences post-électorales de 2007-2008 et aussi pendant les dernières élections en 2017, c'est là où le plus souvent il y a beaucoup de violences, où des jeunes de l'opposition, souvent des louos, vont faire des barricades, brûler des pneus, etc. Où la police souvent exerce une répression très violente. Mais par exemple, pareil, on parle toujours beaucoup plus de Kibera. Il y a eu aussi beaucoup de violence à Matare, où les journalistes avaient moins accès pendant les élections. Et donc on a pu moins vérifier en fait ce qui s'y passait. Mais c'était tout aussi dangereux.
Ces deux villes ne se côtoient jamais, ces deux mondes ne se côtoient pas. Ces bidonvilles et ces quartiers ultra sécurisés.
Alors, bon, moi, en tant que journaliste, j'y allais souvent aussi parce que finalement, ces bidonvilles, pendant la journée, peut-être pas Matare qui est vraiment dangereux, mais Kibera en journée et Kaangware à côté de chez moi, il n'y a aucun problème. On peut arriver, s'acheter un petit truc à manger, se balader. On peut acheter des tissus. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Et c'est justement peut-être l'endroit où il y a le plus d'espace public dans la ville parce que dans les bidonvilles, il y a des petits cafés avec des terrasses, il y a des petits restaurants dans la rue, il y a une vie en fait, il y a des magasins partout, ce qu'on trouve pas du tout dans les quartiers plus riches et plus aisés.
C'est quand même assez paradoxal finalement.
De mon avis en fait, après c'est très personnel, c'est plus agréable de se balader dans l'entrée de Kibera qui est pas du tout dangereuse en termes de vraiment rencontres sociales que dans le reste de la ville. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas trop de raisons que les deux se rencontrent, surtout parce qu'il y a des niveaux de vie qui sont extrêmement différents entre les différentes classes de population à Nairobi.
Complètement deux échelles de prix différents.
Oui.
Donc, pour un repas.
Oui, à Nairobi, donc il y a énormément d'hôtels de luxe, de restaurants, de cafés où on peut aller bruncher, etc. pour les expatriés et la classe assez aisée.
C'est ça, également la classe aisée de Nairobi.
Bien sûr, des Kenyans aussi aisés. Et donc là, on pourrait acheter un plat pour, je sais pas, entre 10 et 15 dollars, alors qu'on pourrait acheter un chapati ou un Rolex à 10 centimes ou 20 centimes au coin de la rue.
Ouais. Le chapati, le Rolex ?
J'adore, ça me manque. c'est vraiment la nourriture de base avec
un peu inspiré de la cuisine indienne, le chapati.
Ah bah oui, complètement. Ils le diront pas les Kenyans.
Donc mais... on va expliquer ce que c'est quand même.
Bah en fait, c'est une galette de blé qu'on mange. En fait, au Kenya, elles sont quand même beaucoup plus lourdes, je crois, que les galettes indiennes. Donc c'est quand même bien gras et on mange ça soit tout seul, soit avec des œufs. Et là, on appelle ça un Rolex, mais c'est inspiré d'Ouganda, le Rolex.
Est-ce qu'il y a malgré tout, avec ces deux villes qui ne se parlent pas, un sentiment d'appartenance à la ville ? Ou bien, dans le fond, tout le monde est de passage, tout le monde est arrivé ici pour faire de l'argent depuis la colonisation britannique ?
Alors, jusqu'à récemment, c'était vraiment comme ça. Et d'ailleurs, quand on demandait, par exemple, à son chauffeur dans le Uber d'où il venait, il n'allait jamais dire « je viens de Nairobi, mais je viens de Kisumu » ou « je viens de Beaumet ».
Même si sa famille est là depuis deux générations.
Ouais, souvent. Et souvent, le rêve, c'est de se faire un petit peu d'argent et de revenir dans son village natal pour avoir une chamba. C'est en fait le petit lopin de terre. C'est la manière dont on appelle ça en swahili. Et finalement... devenir paysan et couler des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, la nouvelle génération se considère un peu plus nairobien, mais c'est quand même effectivement Très récent.
Revenir au pays, de quoi être nostalgique parfois du Nairobi d'avant la mondialisation, ou pourquoi pas aussi de penser aux bonnes vieilles chansons de Daniel Kamao. Dans une ville sans espace public, on est à Nairobi, au Kenya, raconté par Laure Broula, ex-correspondante de RFI. Alors, qui est ce Daniel Kamao qui chante « I love you » ? C'était le bon temps, là.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, donc, avec cette chanson, Daniel Kamao, il va vraiment faire la consécration du Benga. C'est un single qui est sorti dans les années 70, je crois, qui s'appelle « I love you ». Et du coup, c'est aussi avec cette chanson que le Benga, qui était donc c'est une musique qui s'inspire de la rumba congolaise et qui était originellement principalement jouée par les Luo, donc une tribu qui est originaire de l'ouest du Kenya. Mais avec cette chanson qui est chantée en Kikuyu, c'est aussi un petit peu le début du Benga qui devient national en fait, et qui va petit à petit devenir la musique, le style de musique nationale kényan.
Ouais, alors autant dire qu'aujourd'hui pour les jeunes c'est un peu une musique du village, hein ?
Un peu.
Alors revenons dans ce Nairobi très modernisé, où on a ces deux villes qui se côtoient peu, les bidonvilles d'un côté, qui aussi d'ailleurs se modernisent, on en parlera, où il y a du wifi, etc. Et puis ces résidences ultra sécurisées, y compris pour la classe moyenne. Nairobi est quand même une ville particulièrement traumatisée par les attentats terroristes. Depuis plusieurs années, depuis la fin des années 90, il faut se remémorer 1998, l'attaque de l'ambassade américaine. À l'époque, c'est Al-Qaïda qui revendique, et puis ensuite, c'est les Chebabs qui vont prendre la suite.
Oui, ce qui a vraiment traumatisé Nairobi, ça a d'abord été l'attaque du centre commercial Westgate en 2013. Il y a eu une nouvelle attaque en janvier dernier dans le complexe hôtelier du site 2. Et du coup, effectivement, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup quand on vit à Nairobi, c'est le fait d'être fouillé tout le temps. C'est-à-dire que quand on rentre dans les centres commerciaux, il y a des portiques de sécurité, on se fait fouiller au corps, on doit faire passer son sac qui va être fouillé. Et dans une journée normale à Nairobi, je pense que ça arrive 3-4 fois par jour, en fait, de passer par de tels portiques ou de se faire fouiller comme ça. Ce qui est aussi intéressant et ce qui est aussi lié à la problématique de l'espace public, c'est que le terrorisme, du coup, à Nairobi prend une forme différente, on va dire, que dans les pays européens, où les attaquants vont avoir tendance à vouloir empêcher la population d'accéder à l'espace public en lui faisant peur dans l'espace public. Donc, comme par exemple dans des cafés ou dans des bars à Paris. À Nairobi, les Chebabs, dans ces deux dernières attaques, ont eu tendance à en fait rentrer dans des espaces confinés, ce qui rend après la tâche très difficile aux forces de l'ordre qui essaient de les en déloger.
C'était le cas de Westgate en 2013,
ouais,
le centre commercial.
Ouais, donc 68 morts et les Chebabs étaient à l'intérieur. Et donc voilà, ça a été très dur de les faire sortir. Pareil pour le du site 2, qui était un complexe très sécurisé, mais ils ont réussi à rentrer dedans. Il y avait un hôtel, des restaurants, des bureaux. Et du coup, c'est très difficile pour la police à l'extérieur
de faire sortir les terroristes. Ouais. Qui utilisent du coup cette ville du confinement d'une certaine manière.
Ouais, ouais. Et du coup, voilà, on voit des dynamiques différentes des attaques, en tout cas, à Nairobi et dans des villes, par exemple, européennes qui fonctionnent très différemment.
La violence urbaine est une vraie réalité.
Oui, quand même. Bah, longtemps, le surnom de Nairobi, ça a été Nairobi, donc robbery pour vol. Et c'est une ville qui a été très connue pour les vols à main armée en pleine rue. C'est pour ça qu'on dit aux expatriés, mais aussi aux Kenyans de la classe moyenne, de ne pas marcher dans la rue la nuit. Donc c'est pour ça qu'on prend toujours des Uber, des taxis, dès que la nuit tombe.
Et ça veut dire que, malgré tout, vous le disiez, on est fouillé plusieurs fois par jour, on passe par des portiques, les habitations sont très sécurisées, peut-être pas autant qu'en Afrique du Sud, mais il y a ces barbelés autour des résidences, autour des maisons, autour des jardins, etc. Est-ce qu'il y a quand même une partie business derrière toute cette sécurité ?
Ah bah oui, c'est le Kenya est un marché assez juteux pour les entreprises de sécurité, il y en a beaucoup, et donc chaque immeuble en fait embauche une entreprise de sécurité avec des gardes, avec des caméras qui vont filmer les entrées et sorties, et voilà. Après, c'est à voir si on a confiance dans telle ou telle entreprise de sécurité, mais c'est effectivement un marché très juteux
qui fournit des emplois.
Ouais.
Nairobi, une ville sans espace public où chacun patiente aussi dans la malédiction des embouteillages monstrueux. Heureusement, il y a la musique, il y a les bus Matatu, véritable boîte de nuit roulante avec clip et wifi.
Usiwe mbali nami My darling, I need you love Uwe nami Haki ya Mungu na kupenda Nobody can show you love Usiwamini Ukisha wapa wanakwenda O basi jilegeze Nikubebe mbongoni Deka nikudekeze Kutunze kama mboni Wakija wapotezi Ifanye kama uwaoni Kisha uniongezi Ulivofunzwa unyagoni Oh baby Asa dansi ni kone Wabamijo Ululu femi
On est bien dans la ville sans espace public, mais pas sans musique à Nairobi, au Kenya, avec Laure Broula, ex-correspondante de RFI. Laure, vous signez le programme musical et on vient d'entendre un type qu'on voit sur son clip avec des cheveux peroxydés, avec des chaînes et des diamants, et pour cause. Mais il n'est pas kenyan, ce monsieur.
Non, il est tanzanien et c'est une légende, une star absolue en Tanzanie. Il s'appelle donc Diamond Platinums. Et bon, il a sorti des dizaines de chansons qui passent dans tous les clubs de Nairobi. Donc celle-là, c'est vraiment ma préférée. Elle passait absolument partout. Les 6 derniers mois avant que je parte, mon taxi-moto la mettait même sur la radio en fait, et donc je pouvais l'écouter quand on traversait Nairobi, donc c'est vraiment des super souvenirs. Et effectivement, les Kenyans écoutent beaucoup de musique tanzanienne, aussi beaucoup évidemment de musique nigériane, donc avec toutes les stars de l'afrobeat telles que Davido ou Burna Boy. Mais Diamond, il a une place assez particulière quand même.
Vous parliez de votre moto-taxi, parce que pour échapper aux embouteillages, il n'y a pas d'autre solution, c'est la moto-taxi. Les embouteillages, c'est quand même le problème numéro un à Nairobi aujourd'hui.
Je ne sais pas si c'est le problème numéro un, mais effectivement, c'est un énorme problème. Ça m'est déjà arrivé de rester bloqué 40 minutes à 500 mètres de chez moi pendant la nuit. Du coup, en fait, je ne pouvais pas vraiment sortir pour marcher, donc c'est extrêmement rageant. Ou même d'être bloqué 2 ou 3 heures
sur des
autoroutes.
Donc il y a des embouteillages en pleine nuit.
Bah, la nuit tombe très tôt. Hein. La nuit tombe à 6h, 6h30 parce qu'on est juste en dessous de l'équateur. Donc en règle générale, on peut marcher dans la rue jusqu'à 20h, mais à 21h, oui, il peut y avoir encore beaucoup d'embouteillages.
Ça veut dire qu'on peut être bloqué, on peut passer plusieurs heures par jour dans les embouteillages ?
Ouais. Tout à fait. Ben, je pense que pour beaucoup de Kenyans qui prennent des matatous tous les matins, ils doivent passer, je sais pas, 4 heures dans les transports par jour.
Les voisins à Kinshasa, alléluia, vous avez compris, vous n'êtes plus seul au monde. Vous partagez cette douleur avec les habitants de Nairobi et d'autres, bien évidemment. Tous les horaires de travail sont conditionnés par le trafic. C'est un truc auquel on pense toute la journée, certains le disent.
Oui, ça se dit. Je sais pas si les horaires sont conditionnés, mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'effectivement, ils adaptaient leur arrivée et leur sortie du travail en fonction de ces embouteillages. Donc arriver beaucoup plus tôt et souvent partir soit beaucoup plus tôt, soit faire une autre activité après à côté de son travail pour pouvoir rentrer plus tard.
Alors il y a des accidents de la route également à Nairobi, bien que le trafic soit très ralenti.
Énormément. Et ça, bon, on va sûrement en parler, c'est à cause... Pas que à cause, mais il y a beaucoup d'accidents de bus, en fait, qui sont connus pour conduire de manière assez dangereuse. Mmh. Et c'est vrai qu'en une semaine, ça arrive de voir deux accidents, parfois en une semaine à Nairobi. Donc ça arrive de voir des bus retourner sur la route assez régulièrement. Ouais.
Les matatous, les fameux bus privés customisés. On écoute un extrait d'un de vos reportages, Laure Broulard, Brian Wanyama, qui est fondateur de l'association Matwana Matatou Culture, parce que oui, c'est une culture quasiment, le matatou.
Le matatou le plus fou que j'ai jamais vu s'appelle Brainchild. Il a été lancé en 2007. Il avait un écran de télévision 32 pouces sur la lunette arrière, un écran de 40 pouces à l'intérieur et puis des télés au plafond. Ces sièges, c'était les sièges d'un avion pris à l'aéroport de Wilson à Nairobi. Et il y avait même un frigidaire à l'intérieur. Pour la musique, il y avait des haut-parleurs de très haute qualité. C'est le matatou qui a lancé la culture urbaine des bus telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces matatous? Parce que comment font-ils les propriétaires de matatous pour arriver à fournir autant de services dans un bus? On peut avoir du wifi.
Ouais, ils investissent parce qu'ils savent que ça va rapporter beaucoup d'argent derrière. Donc déjà, le matatou, en fait, d'où vient le nom? Le ma, c'est la marque du pluriel en swahili, et tatou, ça veut dire 3. Parce qu'en fait, avant, on payait son ticket à 3 centimes. Donc voilà, c'est
T'as un peu augmenté hein, depuis.
Beaucoup. Et justement, en fait, plus le matatou est cool, entre guillemets, plus le prix va être cher. Donc c'est aussi pour ça que les gens qui ont des matatous investissent. Et donc, ces matatous, il y a des graffitis sur la carrosserie. Il y en a à l'effigie de Mandela, de Barack Obama, de tous les joueurs de foot. Mais j'en ai vu aussi à l'effigie de la Princesse des Neiges. Enfin bon, voilà, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et à l'intérieur, effectivement, ils offrent différents services, des carrés VIP. Il y a pratiquement toujours des écrans qui passent des clips, de la musique à fond. Parfois, quand il fait trop chaud, des petits ventilateurs. Enfin bon, voilà, c'est assez impressionnant.
Mais ce sont des bus pour des longs trajets?
Pour des longs et des petits trajets. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de bus quand même assez développé à Nairobi. Et sur toutes les, on les appelle les routes, il y a des matatous. Il y a en final assez peu de bus publics comparé aux bus privés.
Et il y a une folle ambiance à l'intérieur donc.
Ah oui, complètement. Puis bon, les matatous aussi jouent sur leur réputation sulfureuse. C'est-à-dire que dans les années 90, ils étaient souvent liés à des gangs criminels dans les quartiers un peu chauds de Nairobi. Encore aujourd'hui, on dit que les conducteurs de matatous, c'est un peu les hommes les plus sexy et que du coup, toutes les filles sont amoureuses d'eux. Et ils conduisent comme des fous parce que ça fait aussi partie du jeu et aussi pour éviter les embouteillages. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va monter sur les trottoirs, conduire en double fil, prendre l'autoroute en double sens.
Ah oui,
pour éviter, peut-être que j'exagère un peu, mais j'ai vraiment vu des choses assez folles.
Il y en a qui ont fait fortune dans les matatous?
Oui, beaucoup. Et je pense en particulier à Mike Sonko, qui est aujourd'hui le gouverneur de Nairobi. Et qui est une figure très polémique. C'est un homme très bling-bling, qui est très riche. Personne ne sait vraiment d'où il tient sa fortune. Donc, il a été longtemps dans les matatous. Mais certains disent qu'il aurait fait fortune dans la drogue. Il a déjà fait de la prison. Il a un look assez particulier parce qu'il a souvent des chaînes en or, des grosses voitures. Voilà. Et donc, c'est quand même un homme qui est devenu très important parce que le gouvernorat de Nairobi, c'est un poste politique de première main.
Ces matatous, c'est un peu l'emblème de... On peut dire qu'il y a une vraie culture urbaine. Vous disiez qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance à la ville. Néanmoins, il y a une vraie culture urbaine à Nairobi.
Ouais, et pour la jeunesse en fait, c'est ça. Donc je pense que effectivement cette appartenance, elle est ressentie par la jeunesse, elle est ressentie par la culture urbaine. Donc il y a les Matatous. J'ai oublié de dire que les Matatous, c'est aussi une vraie plateforme pour les jeunes artistes, parce que du coup les artistes de graffiti s'expriment sur la carrosserie, les DJ vont pouvoir passer leur mixtape ou leur chanson dans le Matatou. Donc voilà, il y a vraiment
et on y parle le Cheng.
Voilà, et dans la culture urbaine de Nairobi, il y a aussi cet argot de Nairobi par excellence qui s'appelle le Cheng et qui est un mélange d'anglais, de langue vernaculaire et de swahili. Donc on ne sait pas exactement comment il a été créé, mais on dit qu'il a été créé dans les années 80, donc dans les bidonvilles, par les jeunes qui ne voulaient pas se faire comprendre de la police et de leurs parents. Et du coup, c'est aussi un lien entre c'est vu comme un lien entre les différentes tribus. Parce que c'est une langue qui a été créée, voilà, avec toutes les langues vernaculaires.
Le Cheng, c'est un peu le Mnouchi ivoirien abidjanais ou le Pidgin du Nigeria. Il y a une vraie industrie du divertissement qui démarre tout juste en Afrique de l'Ouest, au sens business du terme. Est-ce que le Kenya est plus avancé?
Je ne pense pas que le Kenya soit plus avancé, par exemple, que le Nigeria ou que la Côte d'Ivoire en termes d'industrie du divertissement. Mais il y a quand même une scène qui est très dynamique. Donc si on parle effectivement de tout ce qui est salle de concert, labels musicaux, soirées, il y a par exemple une soirée qui se fait à peu près tous les mois, qui est devenue très connue à Nairobi, qui s'appelle Kenya Night, qui sont des soirées électroniques et qui organisent vraiment des très très gros événements. Et il y a aussi du coup des artistes très connus qui viennent se produire à Nairobi, des artistes internationaux.
Ceux qui pensent que l'électro, c'est pas une musique qui séduit l'Afrique, là je crois que vous allez changer d'avis, les voisins et les voisines. Vous pouvez d'ailleurs aller sur YouTube pour voir qui est DJ Suraj. Suraj, ça s'écrit S-U-R-A-J. Alors tapez vite ça sur votre smartphone si vous nous écoutez. Ambiance lors d'une boiler room. On vous explique tout après cette petite fièvre.
DJ Suraj, True Music Africa. About to go down.
C'est assez inhabituel de passer de l'électro sur RFI, donc c'est un DJ, un électro kényan, il s'appelle DJ Suraj, c'est un jeune au physique très frêle d'ailleurs, d'origine indienne.
Ouais, donc c'est un Kenyan d'origine indienne, il y en a beaucoup, hein. Il y a une grosse communauté indienne au Kenya. Il est très jeune, je crois qu'il a soit 23 ans, soit 25 ans.
Ouais, ouais.
Et c'est vraiment du coup l'enfant prodige de la musique électronique kenyane. Il fait aussi des tournées en Europe maintenant. Et là, du coup, il mixait à la Boiler Room, qui est quand même un événement électro assez important mondialement et qui a fait une tournée en Afrique.
Donc Boiler Room, ça veut dire un concert électro.
C'est une sorte de concert électro qui tourne un peu en Afrique et qui donne une plateforme aux... En tout cas, en Afrique,
on le voit dans la vidéo. D'ailleurs, le public est complètement autour de lui. Il n'y a pas vraiment de notion
de la boiler room.
Il n'y a pas de notion de
DJ au milieu. Voilà, le DJ au milieu Et donc la particularité de Suraj aussi, et je pense que c'est un peu la clé de son succès, c'est qu'il fait vraiment ce qu'on peut appeler de l'afro house ou de l'afro électro, c'est-à-dire qu'il prend des beats électroniques et il utilise des sons est-africains traditionnels, ouais. Et ça rend super bien.
C'est ça, très, très ethnique, hein, ouais. Et le mélange est absolument sublime. Moi j'adore, vous aussi, il paraît que vous n'avez pas pu aller au concert d'ailleurs.
Ben, j'aurais bien aimé aller à ce concert-là, mais effectivement pour le coup la Boiler Room c'était difficile d'avoir des places, mais Suraj il mixe une fois par mois sur une sorte de rooftop en face du parc national de Nairobi, donc ça s'appelle des Sundowners, et du coup
donc,
on peut
face
voir
aux girafes pratiquement,
voilà.
C'est ça.
Donc on peut voir le soleil se coucher et Suraj mixer, donc c'est des soirées qui sont organisées par le label Gondwana, qui est aussi un label qui kényan, qui investit maintenant dans l'afro house et dans la scène électro-kényane, qui est toute petite, mais qui commence
mais
à grandir.
Mais ça doit être grandiose. Il faut quand même savoir que ce jeune homme de 23 ans est invité aussi partout dans le monde. Certes, dans un monde assez confidentiel de l'électro, mais quand même, son public, qui sont tous ces gens qui viennent?
Bon, alors évidemment, beaucoup d'expatriés et beaucoup de kényans un peu hipsters, hein, donc des jeunes kényans quand même assez aisés. Donc voilà, je disais, c'est quand même un petit public, hein, c'est pas du tout représentatif de l'entièreté du Kenya. Mais voilà, c'est les publics de jeunes actifs kényans.
Du monde des start-up, parce qu'on est, on l'a pas encore dit, Nairobi est une ville ultra connectée, 4G à tous les étages, ou presque. Mmh. Même les bidonvilles sont en train de s'équiper. Il y a des solutions informatiques pour équiper les bidonvilles avec du Wi-Fi moins cher.
Ouais, il y a des entreprises qui commencent à essayer de prendre une part du marché que Safaricom a, qui est l'opérateur téléphonique kényan principal qui vendent la 4G, ils essayent d'offrir du Wi-Fi en fait à bas prix dans les bidonvilles en utilisant une technologie assez compliquée que je ne vais pas expliquer ici, mais ça marche plutôt bien. Et oui, au Kenya, il y a quand même de plus en plus de gens qui ont accès à Internet, et même au niveau de 3G, 4G, même en plein milieu de la Cambrousse, dans des parcs nationaux, on a accès à des données.
Nairobi, c'est la ville où a démarré, tout le monde s'en souvient, le mobile banking que tout le monde connaît en Afrique, le paiement avec son téléphone portable, M-Pesa. Écoutez le témoignage de Gita, qui est gérante d'un petit supermarché de Nairobi, un extrait d'un de vos reportages, Laure Broulard, et qui utilise M-Pesa tous les jours, comme près de 70% des Kenyans adultes, soit 18 millions de personnes quand même.
It has made my life completely simple. It's paperless, moneyless.
Cela me facilite la vie. C'est entièrement digital. On n'utilise pas les espèces. J'ai juste besoin de mon téléphone portable. Avec M-Pesa, je paye mon docteur, mes employés, etc. Il faut savoir que M-Pesa vous tient au courant régulièrement de l'état de votre compte en envoyant des relevés sur votre téléphone. C'est vraiment génial. Et ça a révolutionné tout notre système de paiement. Mes employés de maison, qui sont des femmes qui ne sont pas allées à l'école, savent utiliser M-Pesa car c'est comme ça qu'elles achètent leurs légumes dans la rue. Vous pouvez aussi transférer de l'argent directement de votre compte en banque sur votre portefeuille M-Pesa. C'est vraiment bien. Je l'utilise tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas de raison d'utiliser du cash ou une carte bleue étant donné que M-Pesa fonctionne si bien.
Vous aussi, Laure Broulard, vous utilisez M-Pesa toute la journée?
Ah oui, pareil, tout payer. Partout, tout le temps. J'utilisais pour acheter des légumes dans la rue, j'utilisais pour payer mes courses en taxi moto, j'utilisais pour payer le Uber au supermarché, pour acheter des tickets pour des soirées sur Internet. Voilà, enfin, on l'utilise, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8 fois par jour. Et aussi, effectivement, pour s'envoyer de l'argent de particulier à particulier, ce qu'on utilisait aussi beaucoup.
Près de 18 millions d'utilisateurs au Kenya, 100 000 agents partout sur le territoire chez qui donc on vient retirer ou déposer de l'argent.
Exactement.
Pour recharger son porte-monnaie électronique de son téléphone. Ça existe depuis 2007, donc on a plus de 10 ans maintenant de recul, créé par Safaricom, c'est-à-dire en fait Vodafone, la compagnie britannique. Il faut bien préciser qu'il y a des frais, des commissions, hein, un pourcentage qui est quand même pas, qui est pas neutre, qui est pas anodin. Personne ne sait vraiment, d'ailleurs, à la fin d'une année, combien on a largué à son opérateur de mobile banking.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, donc par transaction, ça paraît petit, mais si on considère qu'on l'utilise absolument tout le temps, ça devient quand même assez important. Donc, par exemple, je crois que quand on transfère 1 dollar, c'est 5 centimes. Et pour 10 dollars, c'est 15 centimes. Ouais. Donc voilà, ça paraît petit, mais ça fait quand même beaucoup au bout d'un moment.
Ouais. Les économistes ont beaucoup étudié M-Pesa pour comprendre ce que ça avait changé dans l'économie du pays.
Oui, et c'est une véritable révolution, surtout en termes d'inclusion financière. Et maintenant, le Kenya est vraiment un leader de l'inclusion financière en Afrique. Parce qu'en fait, M-Pesa a permis d'avoir accès à des produits financiers à une population qui était majoritairement non bancarisée. Donc d'abord, ça a commencé vraiment petit à petit, il y a eu les transferts d'argent. Mais après, Safaricom a lancé un produit qui s'appelle M-Shwari et qui permet en fait aux Kenyans de contracter des micro-prêts ou d'épargner.
Et donc, en fait, on peut épargner à partir de 10 centimes d'euros.
Ouais,
on
voilà.
ouvre un compte épargne à partir de 10 centimes d'euros. C'est quand même incroyable.
Ouais, donc en fait, c'est pareil, on peut avoir des micro-prêts, je pense, à partir pareil de 1 euro ou même de moins d'un euro. Et donc ça permet pour, par exemple, des gens dans des bidonvilles d'ouvrir une petite échoppe avec 5, 6, 10 euros qu'ils ont pu emprunter. Et ce qui est aussi très important et ce qui a du coup véritablement révolutionné l'inclusion financière, en fait, c'est la création d'identité financière et d'informations qui permettent de calculer la solvabilité de personnes non bancarisées. Donc vu que Safaricom, en fait, les données des achats d'une grande partie de la population kenyane et que la population kenyane a déjà commencé à prendre des micro-prêts, eh ben, ils peuvent voir la solvabilité. Et du coup, maintenant, ça a attiré beaucoup d'entreprises, principalement de la Silicon Valley, qui arrivent au Kenya et qui proposent aussi différentes solutions de prêts. Et aujourd'hui, les Kenyans peuvent du coup emprunter 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros en quelques minutes sur leur portable, mais sur 5 ou 6 applications différentes.
Est-ce que cet écosystème, c'est ça aussi qui a permis à tant de startups de se monter, pas seulement dans la fintech et dans l'inclusion financière, mais pour plein d'autres services, parce que tout se faisait déjà avec le smartphone?
Oui, tout à fait. Je pense que la familiarité des Kenyans avec le paiement mobile a vraiment énormément aidé beaucoup de startups à s'implanter. D'ailleurs, il y a énormément de startups qui utilisent...
Ne serait-ce que pour emprunter de l'argent déjà,
ouais,
avoir
qui utilisent
accès à du cash.
Le paiement par M-Pesa. Par exemple, on peut citer M-Copa, qui est même presque plus une startup maintenant parce que c'est devenu énorme et qui propose en fait des panneaux solaires pour apporter l'électricité dans les bidonvilles ou dans la campagne kenyane. Et en fait, c'est un système de paiement par mois. Donc en fait, on achète un prix très bas le panneau solaire et après on le rembourse en fait petit à petit. Et ça, ça se fait à travers M-Pesa parce que du coup, ils peuvent payer. Donc c'est un exemple, mais qui est répliqué.
C'est ça, qu'on retrouve aussi en Afrique francophone maintenant, mais c'est à Nairobi que tout cela a beaucoup démarré. Est-ce qu'on peut dire que Nairobi a très vite compris, peut-être aussi avec le Nigeria, je ne sais pas, mais ce que c'était que l'économie des pauvres, c'est-à-dire le bas de la pyramide, comment on pouvait dupliquer, faire beaucoup de volume avec beaucoup de monde en proposant des solutions adaptées à des tout petits revenus?
Bah oui, d'ailleurs, M-Pesa, c'est d'ailleurs l'exemple parfait. Et souvent, les startups qui fonctionnent bien, ça se base vraiment là-dessus. Donc, c'est comment... Par exemple, il y a pas mal de startups qui aident à avoir un meilleur accès à l'éducation au Kenya. Il y a des startups qui permettent de mettre en lien des habitants avec les pharmacies pour mieux avoir un accès aux médicaments. Donc voilà, c'est toujours un peu sur ce même des startups de solutions en fait.
Laure Broulard, vous n'avez pas encore vraiment évoqué la question des relations sociales entre les habitants et aussi comment vous avez pu faire des rencontres à Nairobi. On a l'impression qu'on fait beaucoup la fête à Nairobi, mais est-ce qu'il y a vraiment des relations sociales?
Oui, comme partout, il y en a beaucoup. Et il y a quand même de la rencontre, ça arrive. C'est vrai que les Kenyans sont extrêmement sympathiques, extrêmement accueillants. Ils sont peut-être moins extravertis que, par exemple, les Sénégalais, de ma propre expérience. Et c'est vrai qu'on m'avait dit un jour que quand un Kenyan, si un Kenyan t'invite à déjeuner chez lui, c'est que t'es vraiment rentré dans son intimité. Et ça m'est arrivé, j'ai eu plein d'amis Kenyans qui m'ont invité à déjeuner, mais effectivement, ça a toujours pris du temps.
Vous avez fait des rencontres qui vous ont marqué, Laure Broulard?
Oui, plein. Alors, effectivement, je l'ai un peu évoqué plus haut, mais... mon taxi-moto qui s'appelait Kamao et qu'en fait je voyais tous les jours, trois fois par jour parce qu'il m'a suivi dans absolument tous mes reportages pendant les élections, dans les bidonvilles. Donc lui, ça a vraiment été une rencontre assez géniale. Aussi des journalistes kenyans avec qui j'ai eu des très belles rencontres.
Être une femme à Nairobi, Pas si compliqué ?
Alors, être une femme blanche à Nairobi, pas compliqué du tout. J'ai l'impression que la violence, on va dire, envers les femmes à Nairobi se fait plus au sein de la famille, en fait. Donc, par exemple, dans les bidonvilles, il y a aussi un taux de viol absolument hallucinant. Mais c'est vrai que... En tant que femme dans la rue, moi, j'ai jamais eu aucun problème, ni dans des bars, ni nulle part.
Et vous parliez de cette violence à l'intérieur des familles, de quoi, à quoi faites-vous allusion finalement ? Au sein des couples, au sein.
Ouais, j'ai fait pas mal de reportages effectivement, enfin sur le plaisir féminin et sur le rapport au viol. Et effectivement, il y a beaucoup de violence et de viol entre petites copines, petits copains, entre mari et femme. Ouais.
Nairobi, on l'a compris, c'est une ville festive et en même temps c'est une ville dure.
Exactement. Ouais, c'est une ville. C'est vrai que c'est une ville assez dure et finalement les relations sociales parfois sont aussi assez dures dans la rue au quotidien. Donc il y a beaucoup de douceur parfois, mais ouais, parfois un peu de tension quand même.
Mais parce qu'on est venu à Nairobi pour conquérir quelque chose aussi.
Et pour faire de l'argent, ouais, c'est ça.
Une notoriété, une carrière.
Ouais.
S'échapper de Nairobi le temps d'un week-end.
Alors ça, effectivement, c'est le mieux au Kenya, parce que justement, si on se sent un peu confiné dans la ville, c'est très facile de sortir et le pays est absolument magnifique. Depuis quelques années, il y a des compagnies de charter en fait, d'avions à très bas prix qui permettent de partir à Lamu, dans le nord, ou à Mombasa, sur les côtes de l'océan Indien, en une heure ou deux. Et puis bien sûr, il y a les safaris, il y a même un parc national en plein cœur de Nairobi.
Mais alors, ce fameux parc national en plein cœur de Nairobi, à quoi il ressemble ? Plus à un zoo, non ?
Non, bon, il n'est pas très grand, mais on y voit quand même des lions, des rhinocéros, des girafes. Il y a cette photo, enfin ces photos, parce qu'il y en a eu des centaines très célèbres, où on voit un lion avec les buildings de Nairobi derrière.
C'est une anecdote ou c'est quelque chose qui fait partie aussi de la vie des habitants de Nairobi ?
Je dirais pas que ça fait partie de la vie des habitants de Nairobi parce que les safaris c'est quand même assez cher. Donc même
non, mais je parlais du parc national au centre de Nairobi.
Bah non, parce qu'en fait si on peut pas y rentrer, on le voit pas vraiment. Donc
et tout le monde peut y avoir accès ?
Non, justement. Donc les prix sont moins chers pour les Kenyans et pour les résidents, très chers pour les touristes et pour les gens de passage. Mais c'est quand même, ça reste quand même un petit investissement.
Nairobi, comme toutes les villes africaines, est appelée à grossir inexorablement, très vite.
Tout à fait. Ouais, les prévisions, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, mais c'est énorme. Et justement, on en revient au problème des bidonvilles, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui arrivent et qui se mettent sur des terrains qui sont tout simplement libres et qui après, souvent, se font expulser au gré des infrastructures ou des décisions du gouvernement. Ils n'ont absolument aucun moyen, en fait, de demander au gouvernement de ne pas les chasser parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété.
Et des spéculations immobilières, parce qu'il faut le rappeler, vous nous l'avez dit dans l'émission, c'est que pas mal de ces bidonvilles sont très très bien situées en réalité.
Surtout Kibera, ouais. Qui est effectivement située entre plusieurs quartiers de la classe moyenne ou ACUP et pas loin du centre-ville. Et d'ailleurs, de plus en plus, oui, il y a des agents immobiliers ou des entreprises immobilières qui aimeraient bien, en fait, prendre du terrain sur Kibera.
Laure Broulard, vous avez vécu presque 3 ans dans cette ville difficile au premier abord. Qu'est-ce qui, parfois, vous manque de Nairobi ? Peut-être une histoire, un personnage, une anecdote, des sons, des couleurs, des voix ?
Alors, ce qui me manque, c'est la danse. Enfin, parce que c'est vrai que par rapport en France, quand on va dans des bars, il y a moins en tout cas de,
ça, c'est
de
sûr.
Son nigérian sur lesquels tout le monde danse comme des fous. Il y a les chapatis, on en a parlé, qui me manquent beaucoup. Il y a le taxi-moto, j'avoue que j'adore me balader, bon, sans casque, même si c'est pas bien, dans les rues. Et c'est un sentiment assez agréable. Et...
Allez-y, non.
Et aussi le fait que c'est quand même une ville très cosmopolite et très très dynamique, où il y a beaucoup de création d'entreprises, beaucoup de création de plein de choses.
Merci à vous Laure Broulard et merci pour ce super programme musical et cette plongée dans la capitale est-africaine. L'émission a été préparée par Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Steven Elsley. Évidemment, vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez des clips. Allez, on a mis les liens sur notre page Facebook demain, suite de notre série d'été. Le choc culturel après Nairobi, demain, vivre dans une ville récompense, Pyongyang, en Corée du Nord. Vous comprendrez pourquoi demain à 10h10.